Judith Gauthier, Fleur d'Orient, Toumadir la Solamide. Un jour, une réunion littéraire avait lieu chez le calife Abdelmelik, qui régna juste un siècle avant Haroun el-Rachid, et un poète fameux nommé Klabi était présent. Quelle est, à ton avis, la femme poète la plus remarquable du paganisme ? Lui demanda le calife. Seigneur, répondit Chabi, c'est Toumadir la Sassanide. Pourquoi lui accordes-tu le premier rang ? Mais n'est-ce pas elle qui a dit « Tout doit subir la mort si capricieuse dans ses coups. Ô destinée bizarre et cruelle, ô Sakir, ô mon frère, tu es parti, tu es allé boire à cette réserve d'eau dont tous goûteront un jour l'amertume. » Mais, reprit Abdelmelik, peut-être est-elle plus poète encore, celle qui a dit de l'homme ravagé par un amour malheureux. Il a les fleurs desséchées et grêles, un vêtement usé, une chemise en lambeaux. Il n'a pour se couvrir ou se cacher que les voiles de la nuit. Il est si terrible à voir que pendant le jour, après le jour, partout on fuit sa rencontre, et même lorsqu'on interrompt ses courses désolées, on est encore en larmes, en alarmes. Oh, ces vers sont de l'amoureuse Leïla, continua le calife, et je les préfère à ce le tour d'Adir. Chabi n'osa rien répliquer, mais continua à donner à part lui la préférence à Toumadir. Cette femme était de la tribu des Beni Solam ou Solamides, et on avait surnommé Kansa, c'est-à-dire la Camuse, à cause de son front proéminent qui faisait paraître son nez déprimé. Elle avait épousé un de ses chefs des Solamides nommé Mirdes, mais elle resta veuve après quelques années de mariage. Toumadir avait deux frères qu'elle aimait tendrement, Mirvia et Sahir. Ils moururent tous deux d'une façon tragique, et la douleur de cette double perte inspira à la jeune femme ses plus beaux poèmes. Moavia, l'aîné des deux frères, vit un jour, dans une fête solennelle qui réunissait plusieurs tribus, passer près de lui une belle jeune fille de la tribu des Boumaïdes, et il la prit pour une femme de mœurs légères, l'appela et l'invita à l'accompagner. Ignores-tu donc, répondit la jeune fille avec colère, que je suis sous la protection de l'illustre chef Hachem, fils de Hamala ? Oh, mais que m'importe, s'écria Moravia, emporté par la passion, je saurais bien t'enlever à lui. La belle Mouride s'enfuit et elle a raconté ses aventures à Hachem. Qu'il vienne, s'écria le chef, et je jure qu'il ne sortira pas vivante dans ton tribu. Le défi fut rapporté à Moavia et quelque temps après, il dirigea une expédition contre les Mourides. Le frère de Toumadir s'avançait donc à la tête de sa petite troupe, lorsque, au moment où il touchait le territoire ennemi, un corbeau passa en croissant au-dessus de sa tête, tandis qu'une gazelle traversait la route devant les cavaliers, de gauche à droite. C'était un double présage de malheur. Tous furent enrayés, et Moavia ordonna à sa troupe de rebrousser chemin. Mais lui et quelques-uns de ses compagnons s'arrêtèrent près d'une réserve d'eau pour faire boire leur monture. Une femme les vit, les reconnut, et alla prévenir en toute hâte le chef des Mourides. Bientôt une troupe de guerriers fondit sur les Solamides. Hachem était parmi eux. Il se précipita sur Moavia et le perça d'un coup de lance. Un autre le renversa et lui fendit la tête. On rapporta le corps de Moavia à la tribu, et Toumadir, éperdu de douleur, improvisa le chant suivant. « Quoi, une telle mort nous a frappés, et les maux de Tiar sont entre eux encore debout. Quoi, une telle mort nous a frappés, et les maux de Tiar sont encore debout, et l'univers demeure tel qu'il était. Existait-il donc un homme dans toutes les tribus comparable à Moavia? Était-il un cavalier pareil au cavalier qui s'abreuva au réservoir d'eau de la vieille ferme Tratres? Qui donc peut-on comparer à mon frère quand l'audace et l'intrépidité l'emportaient? Quand l'ardeur de la guerre faisait se heurter les hommes corps à corps, quand la bataille en fureur retroussait jusqu'au crâne des guerriers les longues cottes de mailles, il n'en était pas de plus brave, de plus dévoué au salut de ses frères. Ah, jamais ne tariront les larmes versées pour lui, Moavia. Jamais ne s'arrêteront mes sanglots et mes cris de douleur. Et tout m'a dire tint parole. Elle ne cessa de pleurer son frère et composa plus tard le poème suivant. Où sont-ils donc tes yeux, ô Kansa? Quoi, tes paupières sont inondées de larmes? Que les étoiles s'éteignent, que le soleil cesse de rayonner. Il n'est plus le fils de Amri, le rejeton d'un noble sang. Sa voix ne vibre plus. Elle qui chanta tant de rimes, perçantes comme des fers de lance. Elle vive parmi nous, ses poésies, et celui qui les a dites ne vit plus. Ô Moavia, les Mourides t'ont tué, mais aussi combien de leurs cavaliers sont tombés sous tes coups. Que de femmes belles et blanches comme l'aurore tu as sauvées au milieu des combats, tandis qu'elles entrent errées et perdues, et leur voix, leur désordre effrayé par la mêlée. Combien de chameaux de belle race as-tu pris à l'ennemi? Comme tu les chassais devant toi du bruit de sa monture, les piquants de son glaive. Combien de captifs désolés tu as conduits devant toi en troupe, comme des bêtes antilopes qui mettent en toi en émoi les premières gouttes de pluie. Moavia, il ne peut exister sous le ciel une douleur pareille à la mienne. Sahir, le plus jeune des rois de Hamr, voulut venger la mort de son frère. Il attaqua les Mourides et en massacra un grand nombre. Nous avons, dès l'aurore, salué mortellement, s'écrie-t-il, et nos lances jusqu'à la rampe étaient engrêlées de leur sang. Mais je peux leur réduire aux abois, cette tribu. Nous en tuerons de ces Mourides, nous en écraserons jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Pourtant, ce fut un jeune cavalier d'une tribu amie qui tua Hachem, le meurtrier de Moavia. Tournadi, reconnaissante, lui adressa les vers suivants. Je donnerai ma vie et celle de tous ceux qui me sont chers pour te récompenser, beau cavalier Djokhamid. Car en vengeant mon frère, tu as rafraîchi mes yeux abîmés de larmes et qui ne savaient plus ni dormir, ni laisser dormir les autres. Sakir fut plus tard blessé mortellement dans un combat resté célèbre sous le nom de la journée des Tamarins. Il reçut un coup de lance dans le flanc, et le fer, en pénétrant, entraîna dans la blessure un anneau de la côte de maille. La plaie s'irrita, il se forma une tumeur, et le blessé languit près d'une année dans les plus cruelles souffrances. À la longue, sa femme Saïma se fatigua de lui en prit en dégoût. La mère de Saïr, au contraire, soignait son fils avec la plus tendre et la plus patiente sollicitude. Un jour, le blessé entendit le son de douleur sur son lit, et une étrange gère demander à sa femme « Comment va ton mari ?»« Hélas, que te dirais-je » s'écria Saïma. « Ce n'est ni un vivant pour qu'on puisse espérer, ni un mort sur qui on puisse se pleurer. Cet homme-là nous abreuve d'amertume. » C'est alors que le triste blessé improvisa les vers suivants. La mère ne se lasse pas, elle, de soigner son enfant. Mais voici l'épousée, ennuyée déjà de la couche et de la demeure de son mari. Va, je ne crains pas de devenir cadavre. Et si j'en avais la force, je l'achèverais moi-même, pour que tu puisses me pleurer. Ah, Seyma, tu m'as réveillé de mon sommeil. Tu m'as ouvert les yeux toi-même. Tu m'as montré que la mort est plus douce que la vie. Je pars, mais de tout homme estimant sa femme à l'égal de sa mère, ne trouve que des jours de misère et de mépris. La malheureuse, désespérée, demanda son sabre, sous prétexte de voir si elle pouvait encore le porter. Il ne put soulever l'arme qui s'échappa de ses mains. Se laissa faire alors une opération qu'il savait devoir hâter sa mort, et dit à tout mardir et pleurer, « Chère sœur, les souffrances ont mille formes dans ce monde, le bonheur est peu de choses. Désormais pour moi, plus de courses, plus de voyages, plus de combats, mais ma mémoire durera autant que durera le mont Altheus. » Il mourut et fut enseveli sur le territoire de sa tribu, au pied de ce mont Atsib. Et Tournadir vit se rouvrir l'écluse de ses larmes et répandit sa douleur en de nouveaux poèmes. « Hélas !» s'écria-t-elle, « celle qui verse des pleurs cuisants, pleure bien séparée d'elle par un voile de terre. Dans la demeure veuve de ses enfants, je me tords les bras en gémissant. Non, la chamelle privée de son chamelin nouveau-né, qui pousse de pleine de tendresse et des cris de désespoir, qui ne s'engraisse pas à aucun pâturage et folle de chagrin, va le chercher de tous les côtés, ne donne qu'une faible image de la douleur dont je suis accablé depuis que sa rire m'a quitté. Hélas, hélas, le temps a ses jours de douleur et de douceur, et ses jours d'amertume. Sakir était le maître, le souverain de nos tribus. Pour nous, il égorgea ses troupeaux dans les jours pénibles de l'hiver. Lorsque le froid et le besoin poussent les chameaux du voyageur à courir au premier abri, et que la faim leur fait saillir les côtes, dans ces jours-là, les hôtes qui descendaient à la demeure de Sakir trouvaient toujours la table prête et les mets bouillants. Ah, maintenant qu'il n'est plus, qui donc recueillera l'étranger lorsque du nord soufflant ces vents terribles dont les sifflements font trembler les échos? Que la tribu en deuil rappelle les vertus, ô Sakir, et qu'elle te pleure sans relâche, car tu étais son héros. Jamais la verve de Toumadir ne tarissait lorsqu'il s'agissait de chanter les morts bien-aimés. Ses poésies roulent toujours sur le même sujet. Nous citerons une élégie encore, la plus célèbre, et qui est passée dans les chants publics. « Coulez, ô mes larmes, coulez sans relâche. Le plus généreux des hommes n'est-il pas couché sous la poussière? N'est-il pas parti pour toujours, l'homme plein de courage et de beauté, héros de la tribu? Le héros long baudrier, à la taille pareille à svelte colonne, celui qui déjà était roi de nos tentes avant que sa barbe ne frisât son menton. Tous les hommes font force de bras vers la gloire. Lui aussi, il le tendit les mains, mais il arriva par-delà la hauteur de tous, et l'ayant dépassé, il s'éleva encore. Quand les dangers fondaient sur nos tribus, c'est en lui qu'elles mettaient leur espoir, en lui, si jeune encore, si nouveau dans la vie. Aussi les plus illustres parmi nos solamides pleurent le doux héros, et les larmes inondent leur barbe. Et les jeunes femmes qui accompagnait le brancard du village et qui était couché mon frère, s'écriait « Malheur, malheur, Sakir n'est plus !» Ah, que ne sont-ils morts au berceau, ceux qui plus tard devaient ainsi construire à cette lente tombe prématurée. Tout m'a dire, vit se lever l'islamisme et embrassa même la foi nouvelle. Lors de l'égir, Abbas, son fils, chef suprême des Solamides à la tête de la tribu, vint faire sa soumission au prophète. Toumadir fut présenté à Mahomet et il récita des vers. Il a reçu avec honneur la félicita de son talent et de sa grande célébrité. Plus tard, Mahomet, voulant citer un vers de Toumadir, laissa savoir combien s'étendait peu à la règle prosodique. Il faussa la mesure, changea les mots de place et estropia le vers complètement. Abou Bekri, qui s'aperçut de l'erreur commise par son maître, répéta le vers tel qu'il devait être. « Oh, qu'importe, dit Mahomet, c'est la même chose. »« Certes, reprit Abou Bekri, tu justifies ces paroles que Dieu a révélées dans son saint Coran. Nous n'avons pas appris à notre prophète la versification, il n'en a pas besoin. Le Coran n'est qu'un enseignement. » Une lecture simple et claire.